Radio Okapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Le ministre intérimaire de l'Industrie demande aux entreprises et particuliers redevables envers le FPI de régulariser rapidement leur situation. Selon Justin Kalumba, le coût global de l'argent à recouvrer s'élève à 350 millions de dollars américains. Ils disposent par ailleurs d'un délai de 30 jours pour s'acquitter de leurs obligations. Ituri, trois combattants de la CRP tués lors d'affrontements avec les FARDC à Djougou. Selon des sources sécuritaires, les combats ont semé la panique parmi les déplacés installés sur les sites de Ro, contraignant plusieurs familles à quitter temporairement la zone par crainte d'une dégradation de la situation. Les aliments locaux, une réponse durable à la malnutrition. Le docteur Numbi Chikala Patrick, expert en nutrition et point focal épidémie et nutrition au Pronanut RDC, l'invité de ce journal, revient sur le rôle essentiel des productions locales dans la prévention de la malnutrition. Au cours de cet entretien accordé à Florence Kizalunga, il partage des pistes concrètes pour renforcer la sécurité nutritionnelle de communautés. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Le ministre intérimaire de l'Industrie, Justin Kalumba Mwanangongo, demande aux entreprises et particuliers redevables envers le fonds de promotion de l'industrie de régulariser rapidement leur situation. Selon Justin Kalumba, le coût global de l'argent à recouvrer s'élève à 350 millions de dollars américains. Les créanciers des fonds publics sont appelés à se présenter volontairement aux installations du FPI pour restituer une partie des fonds reçus et obtenir à l'occasion un échelonnement pour le reste. Ils disposent par ailleurs d'un délai de 30 jours pour s'acquitter de leurs obligations. Après cette échéance, les dossiers des insolvables seront transmis aux structures compétentes chargées d'appliquer les mesures décidées par le gouvernement. On écoute le ministre Justin Kalumba au micro de Jody Daniel Kachama.
Nous avons trouvé un portefeuille de près de 350 millions de dollars qui est en souffrance en termes de recouvrement au FPI. Et nous avons donné 30 jours à tous les débiteurs pour qu'ils rentrent en contact avec le FPI pour pouvoir payer. Parce que ça doit être recouvré. Et ce recouvrement va aussi nous aider non seulement à financer des études pertinentes, des faisabilités d'implantation de nos unités industrielles, mais aussi financer ces unités industrielles. Donc on ne peut pas avoir pris de l'argent de l'État parce que l'origine est quand même publique, c'est la TPI. Et rester dans son fauteuil, bien assis, n'est pas payé. C'est pour ça que nous voulons aussi rompre avec cette culture de la gratuité. Allez auprès du FPI, montrez votre bonne foi en payant une partie et puis obtenez un échelonnement du reste. Le recouvrement forcé va commencer à l'issue de ces 30 jours qui ont été donnés comme préavis. Donc restons aussi patriotes sur ces choses. Donc il est vraiment important que les uns et les autres relaient ces messages. Nous allons être sans pitié.
À Kinshasa toujours, quelles sont les actions prioritaires engagées par le gouvernement pour sortir les Sankourou de son enclavement économique? Cette préoccupation était au cœur des échanges à Kinshasa entre les vice-premiers ministres et ministres de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba et les élus ainsi que les notables originaires de cette province. C'était au cours d'une séance de restitution de sa mission économique dans la province du Sankourou la semaine dernière. Parmi les mesures annoncées figurent notamment les travaux de dragage et des balisages des rivières Sankourou, Lokenye et Lubi dans l'espace Kasai, destinés à rétablir la navigabilité de ces voies fluviales et à redynamiser les activités économiques de Lusambo, chef-lieu de la province. On écoute d'autres explications avec Charles Okoto, notable du Sankourou.
Je dois d'abord féliciter le vice-premier ministre. Je crois qu'il avait pris soin de pouvoir nous rencontrer, nous les notables du Sankourou, avant et aujourd'hui, après la mission comme il avait promis, il vient de nous réunir tous pour nous faire la restitution. Je dois avouer qu'en tant que notable, de dire que j'étais la première autorité à avoir été chez nous et faire la route et de palper la réalité économique du Sankourou, c'est le vice-premier ministre de l'économie. En résumé, nous avons besoin de l'aéroport qui est en dandine jusqu'à aujourd'hui, la route de Benadibili, qui est la route la plus économique. Et dès qu'on va réhabiliter cette route, ce sera un désenclavement de chez nous. Et de trois, il y a le port Il y a le port Okoto, il y a le port Wemabulu. Si on peut évacuer nos produits à travers ce port et la voie aérienne qui coûte trop cher, je crois qu'on arrivera à trouver une solution. Donc aujourd'hui, l'espoir de la population de Sankuru, c'est de voir la concrétisation de tout ce que le vice-premier a vu sur le terrain.
La province du Maniema bénéficiera bientôt d'une barge de fret fluvial d'une capacité de 500 tonnes ainsi que d'un bateau pousseur destiné à renforcer la liaison entre Kindu et Ubundu. L'annonce a été faite lundi au cours d'une réunion consacrée au renforcement des échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et la République unie de Tanzanie à travers les corridors centrales. Conduite par l'ambassadeur de Tanzanie à RDC, la délégation tanzanienne est en mission au Maniema pour promouvoir les opportunités d'affaires et d'investissement entre les opérateurs économiques des deux pays. Le reportage de Florence Kizalunga.
Pour l'autorité provinciale, ce projet constitue une avancée majeure pour le désenclavement du Maniema. Moussa Kabankoubi salue une initiative qui devra faciliter les échanges avec Kisangani et au-delà avec Kinshasa.
C'est très capital pour nous parce que ça va contribuer au désenclavement de la province du Maniema via la ville de Kisangani.
Selon le secrétaire exécutif du corridor central, le financement du projet est déjà disponible. Maître Flori Okanjo indique que l'objectif est de livrer la barge et le pousseur avant la fin de l'année.
Nous avons reçu l'instruction du pays, la RDC, nous demandant de financer la construction de ces barges plus pousseurs. Nous avons mobilisé les financements. Pour le moment, les fonds sont disponibles et nous allons, avec l'autorisation de son Excellence Monsieur le Gouverneur, signer le mémorandum d'entente. Et après ça, ça sera la mise en œuvre du projet que nous comptons, si tout va bien, livrer avant la fin de cette année.
La rencontre s'est poursuivie avec une visite technique de l'aéroport national de Kindu. Objectif, évaluer les possibilités de renforcer la connectivité aérienne entre Dar es Salaam et la capitale provinciale du Maniema. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Pendant ce temps, Mbujimayi, la tomate fraîche inonde les étals en cette saison sèche. Fruit pour les scientifiques, légumes incontournables pour les ménagères, elle séduit par sa polyvalence et sa vertu nutritionnelle. Riche en vitamines, la tomate est également citée par certains spécialistes pour son rôle dans l'amélioration de la santé masculine lorsqu'elle est associée à certains produits pharmaceutiques. Reportage Esther Dalafina.
Au grand marché Bakwadianga, impossible de manquer les montagnes de tomates qui s'alignent sur les stands. Des paniers entiers arrivent chaque matin en provenance de Mouneditu, Luputa et des quartiers périphériques. Cette abondance a fait chuter les prix. Un tas de 8 tomates moyennes vendues entre 1500 et 2000 francs congolais il y a un mois se négocie aujourd'hui à seulement 500 francs congolais. Une baisse qui réjouit les ménagères. Sur le plan sanitaire, Dr Charlie Mukendi précise que la tomate joue un grand rôle dans l'organisme.
La tomate apporte de l'eau et un peu de la vitamine C, considérée comme un antioxydant qui aide l'organisme à se décharger de certains problèmes.
Pour le professeur Célestin Kadima de l'IOM, au-delà de ses qualités nutritionnelles, la tomate associée à d'autres produits pharmaceutiques peut améliorer certains cas d'infertilité masculine.
Des hommes qui ont des problèmes de baisse de fertilité, surtout si cela est causé par des infections, il faut administrer des antioxydants. L'une des substances antioxydantes très puissante que les autres, c'est celle qu'on trouve dans les tomates.
Très appréciée, la tomate est parfois servie comme dessert. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, après plusieurs années d'arrêt, le complexe théicole de Boutoué, situé dans le groupement des Malio en territoire de Lubero, a officiellement relancé ses activités de production de thé. La cérémonie de reprise est intervenue ce lundi en présence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage et de plusieurs autorités locales. Occasion pour Muindo Nzangi Butondo de réaffirmer l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour soutenir et développer cette filière porteuse d'emplois et de revenus pour la population. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Cette relance constitue un soulagement pour les producteurs de la région. Malgré l'arrêt prolongé de l'usine, de nombreux agriculteurs avaient continué à entretenir leur plantation de thé. La remise en service de cette usine devrait désormais permettre une transformation sur place de la production, améliorer les revenus des agriculteurs et créer de nouvelles opportunités d'emploi au profit des populations locales. Au cours de cette cérémonie, le ministre de l'Agriculture a réaffirmé la volonté du gouvernement d'accompagner le développement de cette filière. L'ambition affichée est de redynamiser cette culture de rente et de favoriser à nouveau l'accès du thé français congolais aux marchés internationaux. La manifestation a également été marquée par la distribution des semences agricoles à plusieurs centaines de producteurs. Des semences de haricots, de maïs, d'arachide et d'autres cultures vivrières ont été remises aux bénéficiaires pour contribuer à l'augmentation de la production agricole dans cette partie du Nord Kivu. Les autorités annoncent enfin la poursuite de cette campagne d'appui au monde rural dans les prochains jours à Kavinyong et dans la chefferie de Bashu où un important lot de tracteurs devait être remis aux agriculteurs. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
En Ituri, trois combattants de la Convention pour la Révolution Populaire, la CRP, ont été tués et deux autres grièvement blessés lors d'affrontements avec les forces armées de la RDC lundi dans les collines du village de Ro en territoire de Djougou. Selon des sources sécuritaires, les combats ont semé la panique parmi les déplacés installés sur les sites de Ro, contraignant plusieurs familles à quitter temporairement la zone par crainte d'une dégradation de la situation. Face à ces violences, des notables de la région appellent les FARDC à renforcer leurs dispositifs sécuritaires afin d'empêcher toute résurgence de l'insécurité dans cette partie du territoire de Djougou qui connaissait une relative accalmie depuis plusieurs mois. Marshal Kizia Biamungu pour les détails.
Les affrontements ont éclaté lundi vers midi, heure locale, lorsque des éléments de la CRP de Tobalobanka venus des villages d'Hero et Mbujona ont lancé une attaque contre une position de FARDC sur la colline d'Hero. Les assaillants auraient utilisé des mortiers de calibre 60. D'après des sources sécuritaires, ils soupçonnaient les militaires d'avoir menacé des cultivateurs en provenance du site du déplacé d'Hero. L'armée a riposté à l'arme lourde. Les échanges de tirs ont duré plus de 3 heures. Les bilans provisoires communiqués par les FARDC fait état des 3 combattants de la CRP tués et des 2 autres grièvement blessés. Cette reprise des hostilités inquiète les défenseurs des droits humains qui redoutent une nouvelle escalade de violence dans cette partie de l'Ituri. Il s'agit du premier affrontement signalé entre les FARDC et la CRP depuis le cessez-le-feu unilatéral décrété par ces mouvements armés le 14 mai dernier dans le but de favoriser les efforts de Bounia, Martial, Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Cap sur le Nord Kivu où des centaines d'habitants restent sous le choc après les pillages qui ont accompagné lundi les affrontements entre la FC M23 et une coalition de groupes Wazalendo dans les groupements d'Ikobo et de Kisimba en territoire de Walikale. Bien qu'une accalmie soit observée depuis la fin des combats, la situation demeure volatile en raison de la présence des 2 forces belligérantes dans la zone. Les détails avec Jean Gandou.
Lundi, entre minuit et 4 heures du matin, des combattants Wazalendo dirigés par le général autoproclamé Jonas Bigabo ont mené des attaques simultanées contre plusieurs positions de l'AFC M23 dans les groupements d'Ikobo et de Kisimba. Selon des sources locales, les affrontements ont notamment touché les villages de Kalongé, Kasopo, Rusamambu, Buleusa et Katekoum. Toute la journée de lundi, les activités socio-économiques sont restées paralysées dans ces localités. En raison des détonations d'armes lourdes et légères, de nombreux habitants se sont réfugiés dans la brousse, tandis que d'autres sont restés confinés dans leurs habitations. La plupart des déplacés ne sont revenus que dans la soirée après une baisse de l'intensité des combats. D'après plusieurs notabilités locales, les combattants Wazalendo ont occupé certaines localités abandonnées temporairement par les éléments de l'AFC M23 pendant quelques heures. Ces sources déplorent également d'importants actes de pillage à Buleusa, chef-lieu du groupement d'Ikobo, ainsi que dans l'agglomération voisine de Rusamambu. Des kiosques et commerces ont été entièrement dévalisés, tandis que plusieurs ménages ont perdu des biens de valeur. Ces nouveaux combats surviennent après plusieurs semaines d'accalmie dans cette partie du territoire de Walikale. Malgré les retours relatifs au calme observé depuis lundi soir, les habitants redoutent une reprise des hostilités. La présence continue des 2 camps dans la zone entretient un climat de peur et d'incertitude au sein de la population civile.
À Matadi, le commerce de la ferraille attire de plus en plus de jeunes en quête d'un revenu. Face au manque d'emploi, ils se tournent vers l'achat et la revente des métaux usagés, une activité en plein essor qui leur permet de subvenir à leurs besoins et d'espérer une certaine autonomie financière. Rencontre avec ces acteurs de l'économie de la débrouille dans ce reportage d'Élise Kavira.
Leur cri devenu familier résonne chaque matin dans les avenues de Matadi. À leur manière, ces jeunes débrouillards annoncent leur passage à la recherche de la ferraille achetée.
À 6 heures du matin, je suis déjà debout. Je fais les tours de la ville en criant. J'achète la ferraille. ont payé les kilos entre 200 et 250 francs congolais. Ceux qui choisissent la voie du banditisme sont des fainéants, des paresseux. Nous, nous sommes des débrouillards. Nous préférons nous unir, travailler ensemble et aller de l'avant. Mais vous travaillez durement que voler.
Il faut noter par ailleurs que les hommes ne sont pas les seuls à tirer profit de cette activité. Pour Solange Tiancé, par exemple, ces dépôts de tri sont une véritable mine d'or.
Je viens acheter des morceaux de tôle pour fabriquer des braseros avec mes enfants. Ils ont obtenu leur diplôme, mais nous n'avons pas encore le moyen. En attendant, nous vivons de ce travail.
À l'issue de nos échanges, ces jeunes amoureux de la récup n'ont pas manqué d'adresser un message subtil au maire de Matadi. L'évacuation des épaves en cours dans la ville représente pour eux une aubaine à ne pas négliger. Matadi, Elise Kavira, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, le ministre de la Communication répond à Reporters sans frontières le lundi 3 août à l'occasion d'une cérémonie de montée de couleurs. Pingbende Gilbert Ouedraogo a rendu hommage à un groupe chargé d'agir sur les réseaux sociaux pour le compte du gouvernement, les BIRC, pour Bataillon d'intervention rapide communication.
L'invité.
Comment prévenir la malnutrition grâce aux aliments produits localement? C'est la question abordée dans cet entretien avec le docteur Numbi Chikala Patrick, expert en nutrition et point focal épidémie et nutrition au sein du programme national de nutrition, le Pronanut RDC. Il explique comment une alimentation basée sur les productions locales peut contribuer à améliorer l'état nutritionnel des populations. Il répond aux questions de Florence Kizalunga.
Docteur Numbi Chikala Patrick, bonjour.
Bonjour madame.
Comment peut-on prévenir la malnutrition dans la communauté?
Oui, pour prévenir d'abord la malnutrition dans la communauté, il faut d'abord commencer d'abord par les changements de comportement. Que nous disons, on commence par la sensibilisation de la communauté par rapport à leur situation de la malnutrition et puis leur dire tout ce qu'ils ont dans la communauté, ils peuvent les utiliser pour prévenir la malnutrition, toutes les productions locales.
Alors, vous, dans le programme national de la nutrition, vous avez toujours parlé des nutrition à assis communautaire que vous appelez NAC. C'est quoi son importance dans la communauté?
Merci beaucoup pour la question. D'abord, la nutrition assise communautaire, c'est une approche qui constitue l'ensemble des actions visant à prévenir les diverses formes de malnutrition. Alors, elle met en exergue toutes les connaissances endogènes et aussi, elle ressort aussi l'utilisation des produits locaux.
En formant les nutritionnistes, vous mettez en avant-plan les 1000 premiers jours de l'enfant. Quelles sont les interventions prioritaire, diront les premiers 1000 jours de l'enfant?
Les informations de prioritaire de la fenêtre d'opportunité des 1000 premiers jours de l'enfant. Bon, la NAC met aussi l'accent par rapport aux 1000 premiers jours de l'enfant, c'est-à-dire de la conception de la grossesse jusqu'au deuxième anniversaire de l'enfant, donc jusqu'aux 24 mois. Alors, on suit la maman dès la conception de la grossesse par rapport à la CPN, on la suit et on suit aussi son alimentation. Et puis, à l'accouchement, la maman pratique, on dit, la mise au sein à l'air qui suit l'accouchement, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'enfant va bénéficier de la mise au sein de l'accouchement et bénéficie de colostrum, qui est comme son vaccin naturel, comme un laxatif, et ça prévient beaucoup de maladies chez l'enfant, qu'on voyait. Et puis, la maman allait cet enfant-là pendant 6 mois, et on appelle l'allaitement exclusif, on donne rien du tout. Et puis, après 6 mois, l'allaitement continue, puis c'est l'alimentation de complément. C'est ce qu'on appelle l'allaitement optimal. Et puis, on suit aussi la maman son alimentation, jusqu'à tel point que l'enfant aura plus de 2 ans.
Vous insistez sur les pratiques familiales essentielles. Est-ce que peut-on savoir et connaître ces pratiques familiales essentielles, c'est quoi?
Dans les pratiques sociales essentielles, il y a d'abord les problèmes d'hygiène, l'hygiène de la communauté, aussi la fréquentation d'un hôpital, aussi distribution des milles. Bon, il y a beaucoup d'activités comme ça pour prévenir la malnutrition, surtout beaucoup plus on parle, beaucoup plus d'hygiène.
C'est-à-dire, l'hygiène peut être aussi considérée comme un facteur de la malnutrition?
Oui, évidemment, l'hygiène, c'est une partie de la malnutrition si vraiment il n'y a pas l'hygiène, vous voyez. Manger des choses mal propres, ça peut créer des troubles abdominaux et ça peut créer les problèmes de la santé. Quelqu'un peut perdre automatiquement la santé et puis devient malnourri.
Maintenant, concernant l'alimentation, votre terme c'est manger à 4 étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Oui, nous conseillons de manger à 4 étoiles la communauté. Et quand on parle de 4 étoiles, on voit les céréales. Quand on voit les céréales, on voit les farines de maïs, les manioc, les bananes plantains. Ça, c'est les protéines protéine végétale. Alors, vous pouvez ajouter comme protéine animale, vous achetez même les poissons, vous mangez même les poissons. Et à la fin, vous ajoutez fruits et légumes, c'est ce que vous êtes dans les 4 étoiles.
On a l'impression que la population mange en désordre. C'est-à-dire, elle trouve des bananes ici, elle prend, orange, elle ajoute, ananas quelque part, on ajoute, les foufous, il y a les riz. Alors, qu'est-ce que vous conseillez? Comment est-ce qu'on peut manger?
Voilà pourquoi on a parlé des changements de comportement. Des changements de comportement de la communauté. Donc, il faut les sensibiliser comment manger. Parce que localement, ils ont tout. Et c'est moi comment ils les utilisent. C'est-à-dire, moi, je conseille à la population, ils ont tout. Mais ils peuvent manger quand même la banane le matin. Bon, mange la banane ou l'ananas, c'est pas un problème. Mais à 12h, ils mangent quand même le foufou avec la viande ainsi que l'haricot. Ça, c'est bon. C'est moi, tu peux pas manger sur le 4 étoiles une fois. Mais tu peux manger de manière, tu espaces les airs. Tu peux manger la banane ou l'ananas le matin. À 12h, tu manges le foufou avec le poisson, avec l'haricot. Le soir, tu peux ajouter encore même l'œuf ou tu peux ajouter peut-être quelques produits laitiers. Par exemple, comme je vis, il y a des maziwa. Tu peux prendre même les maziwa comme protéine animale, ça peut aller.
Et c'est-à-dire, il n'y a pas de conséquences si en un seul repas, on combine tout à la fois, les 4 étoiles.
Bon, il n'y a pas de conséquences si la quantité là est normale pour la personne. Mais si c'est beaucoup, il peut toujours se passer. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est que tu manges les feuilles de manioc le matin avec les foufous. À midi, tu manges encore les feuilles de manioc avec les foufous. Comme l'habitude que j'ai vu, tu vas tomber dans la malnutrition. Il faut diversifier.
Docteur Numbi Chikala Patrick, merci.
Ok, merci beaucoup.
C'était donc notre invité, le docteur Numbi Chikala Patrick, expert en nutrition et point focal, épidémie et nutrition au Pronanut RDC. Ils s'entretenaient avec Florence Kizalunga. Voilà qui met fin à cette grande édition du journal parlé de la mi-journée. Ce journal a connu la coordination et la supervision éditoriale d'Alain Irong-Moshing et la mise en onde était assurée des mains des maîtres par Alain Goy. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Place à présent aux informations sportives.